Pourquoi le rendement du capital est-il supérieur au taux de croissance? Poursuivons le raisonnement logique. Existe-t-il des raisons profondes expliquant pourquoi le rendement du capital devrait être systématiquement supérieur au taux de croissance? Précisons d'emblée qu'il s'agit à mes yeux davantage d'une réalité historique que d'une nécessité logique absolue. Tout d'abord, l'inégalité fondamentale R supérieure à G correspond effectivement à une réalité historique incontestable. Confrontés pour la première fois à cette affirmation, de nombreux interlocuteurs commencent souvent par s'étonner et par s'interroger sur la possibilité logique d'une telle relation. La façon la plus évidente de se convaincre que l'inégalité R supérieure à G est bel et bien une réalité historique est sans doute la suivante. Comme nous l'avons vu dans la première partie, le taux de croissance a été quasi nul pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité. En combinant croissance démographique et économique, on peut considérer que le taux de croissance global entre l'Antiquité et le XVIIe siècle n'a jamais excédé durablement 0,1%, 0,2% par an. Quelles que soient les incertitudes historiques, il ne fait aucun doute que le taux de rendement du capital a toujours été nettement supérieur. La valeur centrale observée sur la longue durée gravite autour d'un rendement de 4-5% par an. Il s'agit notamment de ce que rapporte la rente foncière, en pourcentage de la valeur des terres, dans la plupart des sociétés agraires traditionnelles. Même en adoptant une estimation beaucoup plus basse du rendement pur du capital, par exemple en considérant comme nombre de propriétaires terriens à travers l'histoire qu'il n'est pas si simple de gérer un vaste domaine, et qu'une partie de ce rendement correspond en réalité à la juste rémunération du travail hautement qualifié apporté par le possédant, on aboutirait à un rendement minimal, et à mon sens peu réaliste et sensiblement trop faible, d'au moins 2-3% par an. Cela serait dans tous les cas nettement supérieur à 0,1-0,2%. Pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, le fait majeur est que le taux de rendement du capital a toujours été au moins 10 ou 20 fois supérieur au taux de croissance de la production et du revenu. Il s'agissait, dans une large mesure, du fondement même de la société. C'est ce qui permettait à une classe de possédants de se consacrer à autre chose que sa propre subsistance. Afin d'illustrer ce point de la façon la plus claire possible, j'ai représenté sur le graphique 10.9 l'évolution au niveau mondial du taux de rendement du capital et du taux de croissance depuis l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle. Il s'agit évidemment d'estimations approximatives et incertaines, mais les ordres de grandeur et les évolutions d'ensemble peuvent être considérés comme valables. Pour le taux de croissance au niveau mondial, j'ai repris les estimations historiques et les prévisions pour l'avenir analysées dans la première partie. Pour le taux de rendement du capital au niveau mondial, il s'agit pour la période 1700-2010 des estimations du rendement pur du capital obtenu pour le Royaume-Uni et la France et analysé dans la deuxième partie. Pour les périodes antérieures, j'ai retenu un rendement pur de 4,5%, ce qui doit être considéré comme une valeur minimale. Les données historiques disponibles suggèrent plutôt des rendements moyens de l'ordre de 5-6%. Pour le XXIe siècle, j'ai supposé que la valeur observée au cours de la période 1990-2010, soit environ 4%, allait se prolonger. Mais tout cela est bien sûr incertain. Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, il existe des forces poussant vers une diminution de ce rendement et d'autres allant dans la direction de son augmentation. Précisons également que les rendements du capital en France, indiqués sur le graphique 10.8, sont des rendements avant impôts et avant prise en compte des pertes en capital liées aux guerres et des plus-values et moins-values particulièrement importantes au cours du XXe siècle. On constate sur le graphique 10.9 que le taux de rendement pur du capital, généralement 4-5%, a toujours été nettement supérieur au taux de croissance mondial au cours de l'histoire, mais que l'écart s'est fortement resserré au cours du XXe siècle, et notamment dans la seconde moitié du siècle, quand la croissance mondiale a atteint 3,5-4% par an. Selon toute vraisemblance, l'écart devrait s'élargir de nouveau au cours du XXIe siècle au fur et à mesure du ralentissement de la croissance, notamment démographique. D'après le scénario central, analysé dans la première partie, le taux de croissance mondiale pourrait être de l'ordre de 1,5% par an entre 2050 et 2100, soit approximativement le même niveau qu'au XIXe siècle. L'écart entre R et G retrouverait alors un niveau comparable à celui qui prévalait pendant la révolution industrielle. On voit immédiatement le rôle central que peuvent jouer les impôts sur le capital et les chocs de diverses natures dans un tel contexte. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les impôts sur le capital étaient très réduits. Il n'existait dans la plupart des pays ni impôts sur les revenus, ni impôts sur les bénéfices des sociétés, et les taux des impôts successoraux ne dépassaient généralement pas quelques pourcents. On peut donc considérer, pour simplifier, que les taux de rendement avant et après impôts étaient quasiment les mêmes. À partir de la Première Guerre mondiale, les taux des impôts sur les revenus, les bénéfices et les patrimoines les plus élevés atteignent rapidement des niveaux importants. Depuis les années 1980-1990, dans un contexte idéologique largement transformé, de plus en plus marqué par la globalisation financière et la concurrence exacerbée entre États pour attirer les capitaux, les taux de ces impôts se mettent à baisser et dans certains cas ne sont pas loin de disparaître purement et simplement. J'ai indiqué sur le graphique 10.10 des estimations du rendement moyen du capital après prise en compte des impôts et après déduction d'une estimation moyenne des pertes en capital liées aux destructions pour la période 1913-1950. Pour fixer les idées, j'ai également supposé que la concurrence fiscale allait conduire progressivement à une disparition complète des impôts sur le capital au cours du XXIe siècle. Le taux moyen d'imposition du rendement du capital est fixé à 30% pour la période 1913-2012, puis passe à 10% en 2012-2050 et 0% en 2050-2100. En pratique, les choses sont plus compliquées. Les impôts varient énormément suivant les pays et les types de patrimoine. Ils peuvent parfois être progressifs, c'est-à-dire que leur taux augmente avec le niveau de revenus ou de patrimoine, tout du moins en principe. Et rien ne dit, évidemment, que la concurrence fiscale ira jusqu'à son terme. Nous reprendrons l'étude de cette question dans la quatrième partie. On constate que le rendement net d'impôts et net de pertes est tombé à tout juste 1,5% par an au cours de la période 1913-1950, c'est-à-dire au-dessous du taux de croissance. Cette situation inédite s'est produite de nouveau entre 1950 et 2012, compte tenu du taux de croissance exceptionnellement élevé. Au final, on observe que les chocs fiscaux et non fiscaux du XXe siècle ont conduit pour la première fois dans l'histoire le rendement net du capital à passer au-dessous du taux de croissance. Par une conjonction de facteurs, destructions liées aux guerres, politique fiscale progressive entraînée par les chocs des années 1914-1945, croissance exceptionnelle des Trente Glorieuses, cette situation inhabituelle, eu égard à l'histoire, s'est prolongée pendant tout un siècle. Tout laisse à penser qu'elle est sur le point de prendre fin. Si la concurrence fiscale va jusqu'à son terme, ce qui n'est pas exclu, l'écart entre R et G retrouvera au cours du XXIe siècle un niveau proche du XIXe siècle. Si l'imposition moyenne du capital se maintient à un niveau de l'ordre de 30%, ce qui n'a rien d'évident, alors le rendement net du capital repassera probablement dans tous les cas nettement au-dessus du taux de croissance, tout du moins dans le scénario central. Afin de faire apparaître cette possible évolution de façon plus claire encore, j'ai regroupé sur le graphique 10.11 les deux sous-périodes 1913-1950 et 1950-2012 en une seule moyenne pour l'ensemble du siècle 1913-2012, période inédite au cours de laquelle le rendement net du capital a été inférieur à la croissance. J'ai également regroupé les deux sous-périodes, 2012-2050 et 2050-2100, en une seule moyenne séculaire, 2012-2100, et nous avons supposé que les taux de la seconde moitié du XXIe siècle se maintiendraient au XXIIe siècle, ce qui est évidemment tout à fait incertain. Le taux de rendement du capital, après impôts et pertes en capital, est tombé au-dessous du taux de croissance au XXe siècle et pourrait repasser au-dessus au XXIe siècle. Ce graphique 10.11 a au moins le mérite de faire apparaître le caractère tout à fait inhabituel et potentiellement unique du XXe siècle pour ce qui concerne la comparaison de R et de G. On peut également noter que l'hypothèse d'une croissance mondiale de 1,5% par an à très long terme est aux yeux de nombreux observateurs excessivement optimiste. Rappelons que la croissance moyenne de la production par habitant a été de 0,8% par an au niveau mondial entre 1700 et 2012, et que la croissance démographique, également de 0,8% sur les trois derniers siècles, devrait, d'après les prévisions les plus répandues, s'abaisser fortement d'ici à la fin du XXIe siècle. Il faut cependant souligner que la principale limite du graphique 10.11 est qu'il suppose par définition qu'aucune réaction politique notoire ne viendra altérer le cours du capitalisme et de la globalisation financière au cours des deux prochains siècles, ce qui, au vu de l'histoire mouvementée du siècle passé, est évidemment une hypothèse forte et, à mon sens, assez peu plausible, précisément parce que les conséquences inégalitaires d'une telle situation seraient considérables et ne seraient sans doute pas acceptées durablement. Nous reviendrons amplement sur cette délicate question. Pour résumer, on voit donc que l'inégalité R supérieure à G correspond certes à une réalité historique incontestable, vérifiée jusqu'au premier conflit mondial, et sans doute de nouveau au XXIe siècle, mais qu'il s'agit d'une réalité sociale et politique qui dépend pour une large part des chocs subis par les patrimoines, ainsi que des politiques publiques et des institutions mises en place pour réguler le rapport capital-travail. La question de la préférence pour le présent. Reprenons. L'inégalité R supérieure à G correspond avant tout à une réalité historique plus ou moins vérifiée suivant les périodes et la conjoncture politique. D'un point de vue strictement logique, on peut tout à fait imaginer des sociétés où le taux de croissance serait naturellement supérieur au rendement du capital, y compris d'ailleurs en l'absence de toute intervention publique. Tout dépend d'une part de la technologie, à quoi sert le capital, et d'autre part des attitudes face à l'épargne et à la propriété. Pourquoi choisit-on de détenir du capital? Comme nous l'avons noté dans la deuxième partie, on peut dans l'absolu tout à fait imaginer des sociétés où le capital ne servirait à rien et se réduirait à une pure réserve de valeur avec un rendement rigoureusement nul, mais dont les habitants choisiraient d'en détenir en grande quantité, en prévision par exemple d'une catastrophe future ou d'un grand potlatch, ou bien simplement parce qu'il s'agirait d'une population particulièrement patiente et prévoyante pour les générations futures. Si cette société se caractérise de surcroît par une croissance rapide de la productivité du travail, grâce à des inventions incessantes, ou bien parce que le pays est engagé dans un processus de rattrapage accéléré sur d'autres pays techniquement plus avancés, il se peut très bien que le taux de croissance soit nettement supérieur au rendement du capital. En pratique, cependant, il ne semble pas exister d'exemple de société dans l'histoire où le taux de rendement du capital soit tombé naturellement et durablement à des niveaux inférieurs à 2-3% et les valeurs moyennes habituellement observées, au-delà de la diversité des placements et des rendements, sont généralement plus proches de 4-5% avant impôt. En particulier, le rendement des terres agricoles dans les sociétés traditionnelles, comme le rendement des biens immobiliers dans les sociétés contemporaines, qui constituent dans les deux cas les formes de propriété les plus répandues et les plus sûres, est généralement de l'ordre de 4-5% par an, avec peut-être une légère tendance à la baisse sur très longue période, 3-4% au lieu de 4-5%, comme nous l'avons vu dans la deuxième partie. Le modèle économique le plus souvent utilisé pour expliquer cette relative stabilité du rendement du capital autour de 4-5% et le fait qu'il ne descende jamais au-dessous de 2-3% repose sur la notion de préférence pour le présent. Autrement dit, les agents économiques se caractériseraient par un taux de préférence pour le présent, souvent noté θ, mesurant leur impatience et leur façon de prendre en compte l'avenir. Par exemple, si θ égale 5%, cela signifie qu'ils sont prêts à sacrifier 105 euros de consommation l'année prochaine pour pouvoir consommer 100 euros supplémentaires dès cette année. Cette théorie, comme souvent avec les modèles théoriques des économistes, a un côté légèrement tautologique. On peut toujours expliquer n'importe quel comportement observé en supposant que les personnes concernées ont des préférences, des fonctions d'utilité, dans le langage de la profession, les poussant à agir en ce sens. Ce qu'apporte réellement une telle explication n'est pas toujours très clair. Et un pouvoir prédictif radical et implacable. En l'occurrence, dans une économie de croissance nulle, on ne sera pas surpris d'apprendre que le taux de rendement du capital R doit être rigoureusement égal au taux de préférence pour le présent θ. Selon cette théorie, la stabilité historique du rendement du capital autour de 4-5% s'expliquerait donc par des raisons psychologiques. L'impatience humaine et les dispositions moyennes de l'espèce impliqueraient que le rendement du capital ne peut guère s'éloigner d'un tel niveau. Outre son caractère tautologique, cette théorie pose un certain nombre de difficultés. Certes, l'intuition générale véhiculée par ce modèle explicatif, de même par exemple que par la théorie de la productivité marginale, ne peut pas être entièrement fausse. Toutes choses égales par ailleurs, une société plus patiente, ou qui prévoit des chocs difficiles pour l'avenir, aura sans doute tendance à faire plus de réserves et à accumuler davantage de capital. De même, dans une société où l'on aurait accumulé tellement de capital que le rendement serait tombé durablement à un niveau extrêmement faible, par exemple à peine 1% par an, ou bien où toutes les formes de détention de patrimoine, y compris au sein des classes modestes et moyennes, seraient tellement taxées que le rendement net serait tombé à ce niveau, il est probable qu'une part non négligeable des détenteurs de patrimoine chercherait à se défaire de leurs terres, de leurs maisons et de leurs actifs financiers, si bien que le stock total de capital se mettrait sans doute à diminuer, jusqu'à ce que le rendement remonte quelque peu. Le problème de cette théorie est qu'elle est trop systématique et simpliste. Il est impossible de résumer tous les comportements d'épargne, toutes les attitudes face à l'avenir, à partir d'un unique et indépassable paramètre psychologique. Si l'on prend au sérieux la version la plus extrême de ce modèle, modèle dit à horizon infini, car les agents calculent les conséquences de leur stratégie d'épargne pour leurs descendants les plus éloignés, comme s'il s'agissait d'eux-mêmes, à l'aune de leur taux de préférence pour le présent, alors l'implication serait qu'il est impossible de faire varier, ne serait-ce que d'un dixième de pourcent, le taux de rendement net du capital. Toute tentative en ce sens, par exemple au travers de la politique fiscale, déclencherait une réaction infiniment forte dans un sens ou dans l'autre, en termes d'épargne ou de désépargne, de façon que le rendement net revienne à son unique équilibre. Une telle prédiction n'est guère réaliste. Toutes les expériences historiques démontrent que l'élasticité de l'épargne est sans doute positive, mais certainement pas infinie, surtout tant que le rendement varie dans des proportions modérées et raisonnables. Une autre difficulté de ce modèle théorique, interprété dans sa version la plus stricte, est qu'il implique que le taux de rendement du capital R devrait, pour maintenir l'économie en équilibre, progresser très fortement avec le taux de croissance G, à tel point que l'écart entre R et G devrait être sensiblement plus élevé dans un monde en croissance forte que dans un monde en croissance nulle. De nouveau, cette prédiction peu réaliste et peu conforme à l'expérience historique, il est possible que le rendement du capital s'élève dans une économie de croissance forte, mais sans doute pas suffisamment pour que l'écart R-G augmente significativement, tout du moins si l'on en croit les expériences observées, provient de l'hypothèse d'horizon infini. On peut toutefois noter que ce mécanisme contient une intuition en partie valide et en tout état de cause intéressante d'un strict point de vue logique. Dans ce modèle économique standard, reposant en particulier sur l'existence d'un marché parfait du capital, chacun obtient comme rendement pour son épargne la productivité marginale du capital la plus élevée disponible dans l'économie, et chacun peut également emprunter autant qu'il le souhaite à ce taux, la raison pour laquelle le rendement du capital R est systématiquement et nécessairement plus élevé que le taux de croissance G est la suivante. Si R était inférieur à G, alors les agents économiques, en constatant que leurs revenus futurs et ceux de leurs descendants augmentent plus vite que le taux auquel il est possible d'emprunter, se sentiraient infiniment riches et auraient tendance à vouloir emprunter sans limite afin de consommer ces ressources immédiatement, jusqu'à ce que le taux R repasse au-dessus du taux G. Sous sa forme extrême, ce mécanisme n'est pas entièrement plausible, mais il montre que l'inégalité R supérieure à G est parfaitement vérifié dans les modèles économiques les plus standards, et a même d'autant plus de chances d'être vérifié que le marché du capital fonctionne de façon efficace. Résumons. Les comportements d'épargne et les attitudes face à l'avenir ne peuvent être résumés par un unique paramètre. Ces choix doivent être analysés dans le cadre de modèles plus complexes, mettant en jeu des considérations portant à la fois sur la préférence pour le présent, l'épargne de précaution, les effets liés au cycle de vie, l'importance que l'on attache à la richesse en tant que telle, et tant d'autres encore. Ces choix dépendent de l'environnement social et institutionnel, par exemple du système public de retraite, de stratégies et de pression familiale, de limitations que les différents groupes sociaux s'imposent à eux-mêmes, comme certains fiefs dans les lignées aristocratiques qui ne peuvent être vendus librement par les héritiers, autant que de facteurs psychologiques et culturels individuels. À mes yeux, l'inégalité R supérieure à G doit être analysée avant tout comme une réalité historique, dépendant de multiples mécanismes, et non comme une nécessité logique absolue. Elle résulte de la conjonction de plusieurs forces, largement indépendantes les unes des autres. D'une part, le taux de croissance G est structurellement relativement faible, généralement à peine plus de 1% par an, dès lors que la transition démographique est accomplie et que le pays considéré se trouve à la frontière technologique mondiale, où le rythme d'innovation est relativement lent. D'autre part, le taux de rendement du capital R dépend de nombreux paramètres technologiques, psychologiques, sociaux, culturels, etc., dont la conjonction semble généralement déboucher sur un rendement de l'ordre de 4-5%, ou en tout état de cause, nettement supérieur à 1%.